Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Aujourd'hui, eh bien, je vais déjà vous remercier avant de vous annoncer le programme. Et oui, plus de 1500 lectures de l'émission sur Radio Sainte-Afrique. Merci à tous et surtout merci à l'unité spéciale qui m'a permis ce score formidable. Il n'y a pas à dire. Merci à tous, vraiment, merci beaucoup. Je rappelle, Showtime s'est diffusé sur Radio Larzac le jeudi à 15h et sur Radio Sainte-Afrique le vendredi à 10h et 15h. En gros, si vous la loupez sur une radio, c'est pas grave, vous pouvez aller sur l'autre, c'est rediffusé ou diffusé le lendemain. Aujourd'hui, au programme, je vous présenterai quelques-unes des dernières actus ciné, mon avis sur le monde fantastique d'Oz, les sorties DVD de la semaine et l'instant focus où je vous parlerai de Elementary. Maintenant, musique avec Alice Cooper et Disco Bloodbath Boogie Fever. C'est parti pour l'actu ciné. Alors cette actu ciné, elle est dense dernièrement et j'essaye de sélectionner les news qui sont le plus pertinentes pour moi. Après, c'est peut-être pas le cas pour vous, mais bon. Voilà l'actu ciné. Un premier visuel officiel pour les Guardians of the Galaxy a été dévoilé. Sur l'image, on peut voir l'équipe de super-héros cosmiques au complet. De gauche à droite, Gamora, Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax et Groot. l'univers cinématographique Marvel va graviter près des étoiles en août 2014. Il a été diffusé aussi le synopsis, mais pour pas en rajouter trop lourdement à cet actu ciné déjà bien chargé, je ne l'ai pas mis dans les news. Ensuite, The Rock aka Dwayne Johnson pourrait bien rejoindre le DC Cinematic Universe. En pourparlers avec Warner pour incarner un personnage DC au cinéma, l'acteur a partagé la news sur les réseaux sociaux. Reste à savoir quel personnage Dwayne Johnson pourrait bien incarner. Le catalogue DC est vaste. Peut-être que l'acteur vendra la mèche sur son rôle avant qu'on ait eu le temps d'imaginer les théories les plus folles. X-Men Days of Future Past n'a pas encore révélé tous ses secrets. Un nouveau mutant apparaissant dans le film vient d'être annoncé. Il s'agit de Todd, alias le crapaud. Cette fois, c'est Evan Jonik-Kite, quel nom compliqué, qui l'incarne. X-Men Days of Future Past nous arrive le 25 mai 2014. En gros, je pense qu'on pourrait bien voir les débuts de la confrérie des mauvais mutants. Et aussi, une news qui est apparue hier, j'ai pas eu le temps de la noter parce que entre-temps j'avais déjà imprimé ce Showtime, mais une première image de Quicksilver est apparue sur le net. Je vous laisse le plaisir d'aller la regarder car il n'y a pas de mots pour la décrire, à part dire que c'est bizarre. Le second opus n'est pas encore sorti en salle qu'un troisième opus pour la préquelle de La Planète des Singes est en marche. C'est Matt Reeves, le réalisateur du second opus, qui reprend les rênes. Je rappelle que La Planète des Singes, l'affrontement, est toujours attendu pour le 30 juillet 2015 dans les salles obscures. Kill Bill Volume 3 pour les 10 ans du second volet ? Eh bien non ! Le projet est enterré. C'est Quentin Tarantino qui l'a annoncé en personne pendant les fêtes. Si vous souhaitez retrouver le réalisateur derrière Inglourious Basterds ou Django Unchained, sachez qu'il prépare un western. Pour un retour de notre sanglante mariée vengeresse, c'est râpé. Les fans de la première heure, pour vous consoler, sachez qu'il envisagerait l'idée de retourner vers le film japonais ou d'horreur. Je le redis et redis. Les mondes du cinéma et jeux vidéo sont plus proches qu'il n'y paraît. La saga Alien nous le prouve. Un nouveau jeu dérivé de l'univers initié par Ridley Scott nous arrive pour la fin d'année. En voici le titre et le synopsis. Alien Isolation. L'histoire reprend 15 ans après le premier film, Alien. Nous incarnerons Amanda Ripley qui cherche à en apprendre davantage sur la mystérieuse disparition de sa mère. Dans son périple, Amanda va se retrouver isolée sur une station spatiale dans laquelle se trouve un alien. L'accent va être mis sur la survie pour un cocktail qui, espérons-le, sera meilleur que Alien Colonial Marines. Même si, ami du mauvais goût, je l'aime bien Alien Colonial Marines. Mais chut, un secret. Après, news de dernière minute, c'est-à-dire c'est les news que j'ai vite fait repérer entre hier soir et ce matin. Un Marvel one-shot sur le mandarin sera présent dans les bonus de Thor The Dark World. En gros, on retrouvera Ben Kingsley dans son rôle de prétendu mandarin. Le retour de Game of Thrones sur les écrans américains sera pour le 6 avril. Et X-Men Apocalypse, la suite de Days of Future Past, se précise. La sortie serait pour 2016 et nous compterait les origines des mutants. Mais maintenant, c'est parti pour mon avis sur le monde fantastique d'Oz. Le monde fantastique d'Oz est un film Disney de Sam Raimi, sorti en mars 2013 dans les salles et en juillet de la même année dans les bacs. Au casting, nous trouvons James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams. Ce film se présente comme une préquelle au Magicien d'Oz de L. Frank Baum. Nous suivons Oscar Diggs, magicien du Kansas sans envergure, dans son périple de prétendu grand magicien pour libérer le monde d'Oz.
Le Kansas est rempli d'hommes braves. Je ne veux pas être un homme brave. Je veux être un grand homme.
Tu auras besoin de ça ! Je ne veux pas mourir ! Pas sans avoir rien accompli !
Est-ce un rêve?
Vous êtes au pays d'Oz. Je suis Théodora, la gentille sorcière.
Où est votre balai?
Vous ne savez même pas ce qu'est une sorcière.
C'est la cité d'Émeraude.
Vous voilà enfin. La prophétie va donc se réaliser.
Voici ma sœur.
Evanora, pour vous servir.
Le trésor royal du pays d'Oz. Il vous appartient, à condition que vous parveniez à vaincre la méchante sorcière.
Méchante à quel point?
Des villes ont été détruites. Des enfants sont devenus orphelins. Le grand magicien du Kansas. J'espérais votre venue. Vous seul pouvez rétablir la paix.
Moi?
Vous allez mourir! Vous allez mourir!
Ces corbeaux disent que nous allons mourir, j'ai bien entendu.
Seule la force de votre magie peut encore nous sauver.
Dites-moi que vous êtes capable de vous battre.
Non, mais nous chantons.
Messieurs, petit entracte. L'ennui, c'est que je ne suis peut-être pas un vrai magicien.
Oui, mais personne ne le sait. Vous êtes bien plus compétent que vous ne le pensez.
Au secours !
N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions ?
Si, c'est fort possible.
Je vais être franc, ça fait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir devant un film Disney. Quelle claque ! J'ai retrouvé la magie de mon enfance. Je pense qu'il peut plaire à tout âge. Certains éléments peuvent surprendre, faire sursauter, mais rien de dramatique. C'est le principe du scare jump, un élément qui arrive d'un coup et qui fait sursauter. Lorsque l'on regarde le film, une chose est sûre, on ressent le trait de Sam Raimi. En particulier sur l'humour, un humour bien barré comme je les aime. Des fois ça fait exagérer, kitsch, old school, mais c'est justement ce qui est bon. L'exagération proche du cartoon est une partie du charme de Sam Raimi. De même, certains plans, certaines scènes ne sont pas sans faire penser à ses précédents films. Je pense où Oscar et les habitants d'Oz s'affairent à créer le plus grand tour de magie qu'il soit. Certains éléments de cette séquence sont calqués sur celle où Peter crée le costume de Spider-Man. Sam Raimi est bien à la barre. Une barre qu'il a bien manœuvrée. Ce film marque les retrouvailles entre Raimi et James Franco. James Franco avait déjà travaillé avec Raimi dans la première trilogie Spider-Man. Vous voyez Harry Osborn ? Eh bien, c'est James Franco. James Franco qui incarne Oscar Diggs, le grand magicien. Les acteurs sont géniaux, je ne trouve rien à redire là-dessus. Il est dur de les départager, de dire « lui est mieux que tel ». Un gros plus pour la musique de Danny Elfman et les personnages en animation 3D. Instant 4 conscience, car même si les points positifs peuvent être nombreux, il n'est pas impossible que je descende le film. En plus, Sam Raimi le retour, et aussi un grand retour en force de la magie Disney. James Franco, fantastique en magicien d'Oz. Des acteurs tout simplement incroyables. Un gros plus pour les personnages en images de synthèse. On les croirait presque vivants, et on les prendrait presque dans nos bras si on pouvait. Les musiques de Danny Elfman. Une image superbe, que ce soit le passage au Kansas de 1905 et le monde d'Oz, c'est juste bluffant. A ajouté dans ses points positifs le caméo de Bruce Campbell. Bruce Campbell, un acteur fétiche de Sam Raimi, puisque c'est avec lui qu'ils ont fait la première trilogie Evil Dead. On le retrouve souvent en caméo, c'est le cas dans les trois Spider-Man, où Bruce Campbell incarne à chaque fois un rôle différent. Et là, il incarne un personnage, le chef des... je sais plus quoi, mais... sur internet, ça sera marqué, vous inquiétez pas, si vous cherchez Bruce Campbell, vous aurez dans sa filmographie le rôle qu'il fait. Pas de soucis. En négatif, eh bien, je trouve pas de point négatif à dire. Peut-être la 3D, enfin, je peux pas trop me prononcer là-dessus puisque je n'ai pas regardé le film en 3D. Tout ce que je peux dire, c'est que ce film Disney est d'une grande qualité. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne fait pas dans la surenchère de bons sentiments. C'est rare de nos jours, ce genre de film. Alors, en conclusion, le monde fantastique d'Oz est indispensable pour tout amateur de Disney. Il est vraiment fantastique, il n'y a pas à dire. Ce film, qui est une préquelle au Magicien d'Oz, donne envie de voir une adaptation du Magicien par Raimi. C'est vous dire ô combien ce film a su me convaincre. Allez-y, regardez-le. En famille, le plaisir en sera que plus grand. N'hésitez pas, plongez dans le monde fantastique d'Oz.
I have tried, was feeling so cage.
pourquoi cette musique pour illustrer le monde fantastique d'Oz ? Tout simplement parce que je cherchais une musique pour justement mettre après la vie. Et là, d'un coup, je tombe là-dessus. J'écoute. Purée, quel son ! Enfin, moi, j'ai adoré sur le coup et je me suis de suite vu faire une sorte de clip vidéo avec mélangeant une sorte de medley de films avec du Pacific Rim, du monde fantastique d'Oz. Et du coup, je me suis dit, c'est celle-là qu'il me faut. C'est celle-là que je vais mettre pour illustrer le monde fantastique d'Oz. Et si vous voulez l'écouter, c'est Within Temptation, Dangerous, featuring avec Howard Jones. Et maintenant, sortie DVD, here we go ! Cette semaine, dans les bacs, vous pourrez trouver Riddick de David Troy avec Vin Diesel, Cathy Sackhoff, No Pain, No Gain de Michael Bay avec Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Magic Magic de Sebastian Silva avec Emily Browning, Michael Cera, Juno Temple, et aussi la dernière saison de Breaking Bad, ainsi qu'un coffret intégral de la série. Et encore cette semaine, pas grand plus, surtout niveau série. Il faut peut-être attendre que l'effet fête s'estompe pour avoir plus de sorties. Là, ça commence un peu, mais je pense que fin janvier, début février, ça devrait aller mieux. C'est parti pour l'instant focus sur Elementary. Elementary, j'avais déjà fait une petite chronique dessus pour la matinale de Radio Sainte-Afrique, Café Culotte. Café Culotte qui n'est plus diffusé en matinale à Radio Sainte-Afrique, pour des contretemps, oui. Et du coup, ben, je vous invite à écouter les podcasts de Café Culotte qui sont plus que sympathiques. Franchement, j'y ai participé, c'est vraiment agréable à entendre. Surtout les billets de Benoît, j'ai beaucoup aimé. Revenons-en à Elementary. Le focus que je vous propose est à quelques mots près identique à la chronique que j'avais faite. Si j'en reparle aujourd'hui et que je vous fais part de ce focus, c'est car Elementary vient de nous arriver en France. Et oui, la diffusion a commencé le 3 janvier 2014. J'espère que vous le regardez. Elementary, série télévisée créée par Robert Daugherty et diffusée depuis le 27 septembre 2012 aux USA. Elementary raconte les histoires de Sherlock Holmes à notre époque. Incarné par Johnny Lee Miller, Sherlock réside à New York suite à des problèmes avec la drogue. Tout juste sorti de cure de désintoxication, son père lui assigne un compagnon de sobriété, le docteur Joan Watson, porté à l'écran par Lucy Liu. Sherlock, qui souhaite renouer avec son passé de consultant pour la police, entraîne Watson dans nombre d'enquêtes. Ensemble, ils sont de grand secours pour la New York Police Department. Seulement l'ombre de M plane. La première saison compte 24 épisodes. La seconde a commencé à la rentrée 2013 outre-Atlantique. Aujourd'hui, ils en sont à la mi-saison. En gros, à l'épisode 12 sur 24. Qu'est-ce que ça fait plaisir, un bon générique où on voit, qui dure un peu plus de 30 secondes, où on voit les noms des acteurs, tout ça. Enfin, c'est bien ce genre de générique, il en faudrait plus souvent. Je vous en reparle de Elementary, car elle vient de nous arriver en France, et également car c'est une série que j'affectionne particulièrement. Bon, après, de par son principe, ça marche sur la voie tracée par les séries telles que Mentalist, Bones, Castle et autres. Une personne extérieure à la police leur vient en aide de par sa capacité à raisonner différemment. Donc, il n'est pas dit que ça plaise, surtout si vous saturez vis-à-vis de ce genre-là. Pour autant, j'ai envie de dire que ça change de ces séries que l'on voit trop souvent maintenant. Lorsque je regarde une série policière, j'aime réfléchir, déceler les indices, démasquer l'identité du tueur avant les héros du show. Et là, le plaisir est encore plus grand. Sherlock est décrit comme le plus grand détective du monde. Imaginez le plaisir qu'il y a à le devancer, à comprendre qui est le méchant. Bon, par contre, ça donne souvent ça. J'ai trouvé l'identité du tueur, j'ai devancé Sherlock. Et de ce temps, dans la série, Holmes nous explique qu'il l'avait bien compris, bien avant nous. Dure est la chute. Mais le plaisir est tout de même là, car les intrigues sont assez complexes. Depuis ma chronique sur Radio Sainte-Afrique, je n'ai pas énormément avancé, voire pas du tout. J'en suis encore à la première saison, vers l'épisode 15. La tension monte au fur et à mesure, nous en apprenons plus sur le passé de Sherlock, sa relation avec Watson évolue et la némésis de Holmes n'est pas loin. Que de bonnes choses qui annoncent un final en apothéose. Tout pour dire que c'est un de mes coups de cœur niveau série de ce moment. La performance de Johnny Lee Miller en Sherlock au franc-parler est, je pense, pour beaucoup. Merci de casser Céline Dion, c'est très bien. Pour moi, Elementary donne un nouveau souffle aux séries policières. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si la version FR vous séduit, tentez l'expérience en VO. Le plaisir n'en sera que plus grand. Maintenant, une musique du City of Prague Philharmonic Orchestra, Discombobulate. Si je l'ai choisi, c'est parce que c'est relatif à un Sherlock, mais cette fois au cinéma. Cet épisode de Showtime touche à sa fin. Je pense que j'aurai encore beaucoup à dire, mais je ne vais pas trop m'égarer là-dessus. Mais j'ai de grands projets en préparation. Lorsqu'ils avanceront un petit peu, je vous en ferai davantage part. Mais tout ça, c'est relatif à peut-être une chaîne YouTube, quelques blogs par-ci par-là. Enfin, je vous en parlerai plus lorsque ça sera avancé et je vous présenterai sûrement mon équipe. D'ici là, je vous dis à la prochaine en espérant que cet épisode de Showtime vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions et de vos avis pour la suite. En vous remerciant pour m'avoir écouté et aussi un grand merci à Marie que je compte faire participer sous peu à l'émission et à Radio Larzac pour l'enregistrement. Je vous dis à la prochaine.